Bonjour à tous. Dans le cadre des méthodes de Jazz en Provence, nous voyons aujourd'hui la première qui est la musique libre. Alors tout d'abord, pourquoi ce terme de musique libre et non pas musique improvisée, free ou une autre appellation ? La musique improvisée constitue un univers assez vaste dans lequel se retrouvent des musiciens de toutes sortes d'horizons. C'est aussi souvent son intérêt mélangé et puis se nourrir de cultures différentes. Lorsque par exemple des musiciens de jazz se retrouvent pour improviser en dehors d'un cadre, cela devient du free jazz. Et ça emprunte souvent quand même le vocabulaire du jazz. C'est pareil pour des musiciens classiques qui vont improviser plus librement, mais toujours avec les codes de la musique classique. L'appellation musique libre permet de ne pas se placer dans un contexte existant et n'exclut rien d'emblée. Alors il y a une appellation plus usuelle qui est celle d'improvisation libre, qu'on peut souvent voir. Mais pour l'avoir essayé, elle pose le problème du mot « improvisation » qui effraie souvent les musiciens. Lorsqu'il s'agit d'un musicien qui ne fait pas de jazz, il pense qu'il ne sait pas improviser. Et puis, lorsqu'il s'agit d'un musicien de jazz, ça le ramène à sa perception de son niveau d'improvisation en jazz. Si vous proposez à un musicien d'improviser, il vous dit parfois qu'il ne sait pas improviser. Vous lui demandez de jouer quelque chose librement, là, ça passe beaucoup mieux. Alors pourquoi proposer la musique libre comme toute première approche avant même le travail de groupe ? Le jazz, c'est par essence une musique d'improvisation, mais il y a beaucoup de codes, beaucoup de contraintes. Et puis l'approche intellectuelle qu'on rencontre souvent dans le jazz oblige à voir la musique par le prisme de l'harmonie, des grilles d'accords, des structures, avant même d'avoir commencé à jouer. Cette approche oblige un long chemin pour s'en libérer et gagner en liberté, en spontanéité, en interaction. Ce qu'on voit lorsqu'on observe des musiciens avancés qui donnent l'impression de s'être débarrassés de tout ça, en échangeant, en se regardant et en jouant, en étant complètement à l'écoute les uns des autres. En proposant en début de séance, chaque jour, cette façon de se dire bonjour avec les instruments, on permet aux musiciens de toucher du doigt cette liberté d'échange et de communication qu'ils pensent souvent réservé à une élite ou qu'ils voient comme une finalité une fois qu'ils auront assimilé tout le reste. Alors que là, libérés de toute contrainte rythmique, harmonique ou structurelle, ils peuvent s'écouter, se regarder et faire travailler pleinement leur écoute. Ils commencent donc à acquérir des réflexes de communication qui seront importants pour la suite et ils peuvent oser une créativité musicale qu'ils s'interdisent parfois par ailleurs. Alors comment présenter la musique libre à des néophytes, à des gens qui n'en ont jamais fait ? La meilleure analogie, pour moi, c'est celle d'une conversation à table, une situation que tout le monde connaît. Lorsqu'on se retrouve autour d'une table, on peut comparer les échanges verbaux à la musique. Différents sujets peuvent être abordés sans qu'il y ait de règles au départ. Il y a quelqu'un qui parle de quelque chose, les autres enchérissent, argumentent, prennent la parole. Il y a néanmoins quelques règles de bienséance comme ne pas couper la parole, ne pas la monopoliser tout le temps, être à l'écoute, aller vers celui qui n'ose peut-être pas parler, etc. Alors de même que la richesse des échanges serait liée au niveau de culture des participants quand on est à table, la richesse de la musique libre sera également liée au niveau des musiciens, à leur expérience, à leur vocabulaire, à leur culture. Chacun y apporte en fait son vécu, son caractère, son degré d'écoute et aussi son degré d'intérêt pour les autres. On doit donc à la fois ne pas s'imposer, parfois prendre la parole, parfois la laisser aux autres, tout en les accompagnant pour enrichir leurs propos. En un mot, commencer à utiliser ses oreilles pour jouer. Jusqu'où doit-on aller en termes de fréquence et de durée de cette musique libre ? L'improvisation libre ou collective, c'est, comme je le disais, un univers à part entière de la musique. Certains musiciens s'y sont spécialisés et ont consacré une grande partie de leur vie musicale. C'est le cas par exemple de John Zorn ou du label allemand Free Music Production, qui avait été fondé dans les années 60 par George Gebers et Peter Brossmann, puis quelques autres, et qui a perduré jusqu'en 2010 ou 2011. Nous utilisons la musique libre à des fins pédagogiques. On doit accepter qu'on ne fait que la survoler, l'approcher modestement pour l'expérimenter. Ce n'est pas un but en soi. L'approche serait complètement différente si on devait par exemple faire un stage ou un atelier de musique libre. Donc y consacrer quelques minutes à chaque début de séance, ça permet de réaliser cet objectif en s'y impliquant et en y prenant du plaisir au fur et à mesure, sans que ça devienne un but à part entière. La musique libre doit-elle être organisée ? Ça pose la question des règles et de l'absence de règles. Si par essence la musique libre est libre, c'est qu'il n'y a pas de règles. On a vu néanmoins qu'il y a des règles de bienséance quand même qui sont souhaitables. L'idée de base serait de construire de la musique ensemble à partir de rien. Il est donc souhaitable, afin de permettre la plus grande créativité, de ne pas fixer de règles musicales au départ. Mais il peut arriver que cette absence de règles, paradoxalement, aboutisse soit à revenir à un cadre connu et rassurant, ou empêche d'aller chercher des idées, des nouveaux sons en dehors de ses habitudes. Il peut donc être salutaire de proposer des thématiques permettant de sortir des sentiers battus et favoriser ainsi différentes approches en en limitant d'autres. Par exemple, on peut dire aujourd'hui, on ne va pas faire de rythme, on ne doit pas entendre de rythme. Ou par exemple, si on joue sur l'harmonie, on entend une harmonie, on en change le plus vite possible. On peut dire on évite les notes longues ou on évite les notes courtes. On peut dire par exemple qu'on improvise sur une idée, la pluie, le soleil, la mégapole, une couleur. Ça oblige à jouer moins intellectuellement et davantage avec un ressenti. Donc on peut proposer ce genre de suggestions qui vont permettre d'élargir un petit peu la pratique. Alors quid de la musique libre en public ? Si la musique libre peut ou est souvent pratiquée de façon confidentielle entre musiciens, il existe néanmoins des concerts entiers de musique improvisée et il y a un public aussi pour ça. Même si ce n'est pas une finalité dans notre cas, lors du concert de fin de stage à Rustrel, chaque groupe doit inclure une séquence de musique libre dans sa restitution. Alors ça peut être l'introduction ou la fin d'un thème, parfois ça peut être une échappée en plein milieu. Ça, c'est à chaque groupe d'en décider la place et puis les modalités à l'approche du concert. Mais cette obligation impose de se poser la question de l'intérêt de cette part de musique libre qu'il peut susciter au niveau du public. Elle permet de faire sortir la musique libre du seul cadre intimiste du groupe en la rendant intéressante et en faisant une proposition musicale pour le public. Alors, elle reste néanmoins anecdotique en dépassant pas quelques minutes, mais elle permet aussi un moment d'amusement et de complicité différent du reste de la prestation. Voilà, donc en conclusion, la musique libre, c'est la première étape des méthodes de jazz en Provence. Elle permet d'entrée de jeu de faire les choses différemment de l'habitude et de prendre conscience dès le départ de l'écoute, de la construction ensemble et de l'échange que l'on souhaitera ensuite prolonger dans notre pratique du jazz.